Bonjour à tous. J'invite donc à prendre la parole de Dieu. Nous allons exposer la parole de Dieu pour traiter ce sujet sur lequel nous sommes encore ce mois-ci. Donc c'est l'angélologie, donc des doctrines qui parlent, en tout cas des anges, où on expose ce que font les anges. Nous exposerons aussi ce que fait notre Seigneur. Et nous le verrons donc dans le livre « L'Évangile selon Matthieu », au chapitre 3, versets 16-17, et on continuera au chapitre 4 jusqu'au verset 11. Et la parole nous dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui, de Jésus, et le servirent. Dans ce passage que nous venons de lire, nous arrivons à un moment majeur de l'histoire. Pourquoi je dis majeur ? En une journée, en 13 versets, tous les protagonistes célestes vont se manifester. Et s'ils viennent se manifester, c'est qu'il doit y avoir un événement quand même particulier. Vous avez le Père, le Saint-Esprit, vous avez le diable, vous avez les anges. Et ils sont tous réunis dans un lieu inhabituel. Ce sont des protagonistes célestes, mais là, la scène se passe où ? Sur Terre. Certainement qu'un événement majeur se déroule sur Terre. Car tous les êtres célestes seront sur Terre après une déclaration du Père. Et quelle est cette déclaration ? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection ou toute mon approbation, selon certaines traductions. Toute ma confiance, il n'y a pas de réserve. Celui-là, tout ce qu'il fait, me plaira. Dieu le Père a pleinement confiance dans celui qu'il appelle mon Fils bien-aimé. Et cette déclaration attire tout le monde céleste à regarder ce qui se passe en bas. Le Saint-Esprit va descendre et venir. Le diable va venir et tenter le Fils. Les anges viennent pour servir le Fils. Ils descendent tous. Un événement majeur autour d'un simple homme de 30 ans qui vient de se faire baptiser, qui vient de commencer son ministère dans les eaux du Jourdain, à 30 km de chez lui. Celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et dans ce quartier, tout le monde le connaît comme étant le fils de Joseph et de Marie. Mais la nouvelle retentit dans le ciel et dit, cet homme a toute l'approbation de Dieu. Il n'a jamais dit ça de personne. Personne. Aucun homme. Il y a bien eu des gens selon le cœur de Dieu, des hommes intègres, droits, des craignants Dieu, mais celui qui a toute son approbation, il n'a jamais dit ça. Alors tous les êtres célestes se disent, ça vaut peut-être la peine de descendre. Ça vaut peut-être la peine de descendre. Et un ange particulièrement dit, je crois qu'il va falloir que je descende. Il va être intrigué par cette déclaration du Père. Comme à chaque fois que le Père fait une déclaration sur quelqu'un en disant, celui-là, il est intègre, il est droit. Il va se déplacer. Dans le passé, il l'a déjà fait. Dieu avait présenté au diable un homme dont il était dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il le répétera même deux fois. On parle de Job. Et quel est le réflexe de Satan? T'es sûr de ce que tu dis? On va voir ça. Quand Dieu déclare qu'une personne est intègre, quand Dieu a l'approbation, donne son approbation sur quelqu'un, soyez sûr d'une chose, il y a quelqu'un qui va intervenir. Une personne dont c'est le rôle. Il n'avait pas dit à Job, tu as toute mon approbation, toute mon affection. Job n'était pas parfait. Mais sur la terre, il n'y avait personne comme lui. Donc s'il y a bien quelqu'un qu'il fallait venir embêter, tenter, c'était celui-là. Tous les anges à cette époque-là sont restés aux cieux. L'Éternel n'est pas descendu, mais lui, il descend. Pour Jésus, tout le monde est descendu. Le Père a donné, il a toute mon approbation. Cet ange dont on parle, c'est Satan. Et dans ce message, on va le connaître sous tous ses noms. Le diable, vous savez ce que veut dire diable ? Qui se met en travers, ou celui qui divise, ou le calomniateur. Le rôle du diable, c'est de dire, séparez-vous. Entre qui ? Entre les hommes et Dieu. Et il est Satan, l'adversaire. Quand Dieu fait quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'oppose. Je suis l'adversaire. Il est le tentateur. Dans ce passage, c'est le nom qui est donné. Le tentateur, c'est celui qui sollicite à pécher. Son travail est simple. Il utilise tous ses noms et il veut rappeler à Dieu une chose. Toutes tes créatures sont intéressées. Toutes tes créatures sont corruptibles. Toutes tes créatures, je vais les amener à m'adorer, à suivre ma voie et non plus ta voie. Et c'est ce qu'il fait. C'est l'adversaire, le destructeur. Tout ce que Dieu crée, il veut le détruire. Et dans notre passage, dans l'évangile selon Matthieu, si tous les êtres célestes viennent approuver celui que le Père a approuvé, lui, il vient le tenter. Il vient tenter celui qui a été déclaré fils bien-aimé, le Sauveur, Jésus, le Messie promis. Satan, lui, veut pousser au péché, le détourner du service pour Dieu, l'empêcher de sauver les hommes. Pour rappel, si vous connaissez votre histoire biblique, dès que Dieu a créé des serviteurs, Adam, Ève, qui est le premier à être venu ? C'est lui. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a corrompus, tentés. Alors il se dit, pourquoi donc cet homme, ce Jésus, serait une exception ? Il est fait de chair, il est corruptible comme tous donc. Il est le Messie, l'envoyé de Dieu certes, mais ce n'est qu'un homme. Même les anges, plus forts, qui sont faits d'esprit uniquement, j'en ai corrompu déjà plusieurs. Alors comment un homme pourrait me résister ? Voilà pourquoi il se sent capable de me dire, je vais le tenter. Et pour nous, c'est une chose importante à comprendre. Lorsque nous vivons conformément à la parole de Dieu, lorsque nous avons l'approbation de Dieu, il va dire pareil. Mais qu'est-ce qui empêche que je vienne le tenter ? Qu'est-ce qui empêche que je le fasse tomber ? L'adversaire joue toujours le rôle d'adversaire. Et je dirais même, si vous êtes proche de Dieu, ne vous étonnez pas que vous ayez un adversaire. Et si tout va bien dans votre vie en disant « moi je n'ai pas d'adversaire », posez-vous la question « est-ce que je suis du bon côté ?» Il n'y a pas de partie neutre. Soit on suit la voie de Dieu, soit on suit la voie du diable. Dans le passage que nous avons lu, Jésus jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'aimerais qu'on prenne Luc 4, 2, parce qu'il y a un détail particulier qui n'est pas mentionné dans Matthieu 4, mais dans Luc 4, qui est exactement la même scène, il y a un détail qui dit « Il fut tenté par le diable pendant 40 jours ». Dans Matthieu 4, on a l'impression que c'est après les 40 jours. Mais il a été tenté pendant les 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Pendant 40 jours. Moi, ça me rappelle un verset dans 1 Pierre 5,8 qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Pendant 40 jours, le diable, il faisait quoi ? Tourne autour. À quel moment je vais pouvoir le dévorer ? À quel moment ? 40 jours, il attendait le moment où Jésus était dans sa plus grande faiblesse. Et le moment où il a vu que Jésus était faible, on peut revenir dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 1er. On lit au verset 2, pardon. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim. Et à partir de ce moment-là, on peut lire le verset 3. Le tentateur s'étant approché. Ça veut dire qu'il était où avant ? Il se tenait un peu loin. Il rôdait. Mais maintenant qu'il sait qu'il y a une certaine vulnérabilité, il va s'approcher et il va parler. Jusqu'ici, il n'a rien dit. Satan connaît les hommes. Et il se dit, Jésus, c'est un homme. Lorsqu'on a un besoin, on est toujours prêt à tout pour l'assouvir. Pour Satan, Jésus ne devait plus raisonner selon la volonté de Dieu comme il avait faim. Il va raisonner selon ses propres désirs, les désirs de sa chair. Il a faim. C'est comme ça que nous raisonnons. Moi, vous savez, je pense toujours à ces... Il y a moins ça parce que maintenant, il y a les mails, donc il y a des spams. Ces petits prospectus que vous recevez dans les boîtes aux lettres. Vous voulez être riche ? Retrouver la santé ? Trouver l'amour ? Contacter professeur, machin, etc., etc., etc. Et on se dit, mais qui appelle à ça ? Ça se voit que c'est une arnaque. Pourtant, il y a des gens qui appellent. Sinon, ils ne le distribueraient pas. Pourquoi ces gens appellent ? Ils veulent tellement ces choses qu'ils sont prêts à tout donner pour l'avoir. Tout donner, quitte à perdre leur âme. Comme tous les hommes vivants, une épreuve, la tentation vient. Et nous cherchons avant tout à combler quelque chose qui nous manque. On oublie Dieu et on cherche juste le moyen de combler notre manque. Que ce soit dans le monde, c'est une chose que l'on conçoit. Car le monde est attiré par ses convoitises. Mais que ça vienne dans l'église devient plus compliqué. Que les gens rentrent dans les églises pour dire quoi ? J'ai faim. Je suis pauvre, je me sens seul. Si c'est la raison pour laquelle vous venez à l'église, ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort pour vous sauver de quoi ? De vos péchés. Vous vous trompez de raison. Mais ça, c'est la raison que propose Satan. Venez, vous serez riche. Ah, il y a des églises, hein ? Venez, vous serez riche. Venez, vous trouverez un mari, une femme. Venez, vous trouverez ce qui manque sur cette vie terrestre. Mais ce que Dieu nous donne, ce n'est pas un manque sur la vie terrestre, c'est un manque de tout homme, de paix, de salut, de relation avec Dieu, d'absence de Dieu dans notre vie. C'est le vrai problème de l'humanité. Vous pouvez, vous savez, donner à manger à quelqu'un pendant 40 jours, faire de l'humanitaire, mais après ces 40 jours, qu'est-ce qui lui restera ? Plus rien. Hein, j'ai déjà donné cette histoire, mais ça me rappelle toujours les histoires, vous savez, de cette personne qui est coincée dans le puits. Une personne qui est coincée dans le puits, et puis il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent à manger, ils le jettent dans le puits, pour qu'ils survivent dans le puits. Et puis il y a des gens qui prient en disant, j'espère qu'il sortira du puits. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire ? Tendre la main et dire, sors du puits ! Et c'est ce que fait le Seigneur. Il n'est pas venu pour nous jeter à manger, pour qu'on vive sur cette terre et qu'on se dise « Ah, je vis bien ici ». Mais il est venu pour nous sortir des malheurs de cette terre. Et le docteur qui enseigne cela dans le monde et qui fait rentrer cela dans les églises, c'est Satan. Il connaît l'homme, il sait que nous sommes intéressés et il veut qu'on arrête d'adorer Dieu, mais qu'on l'adore lui. Son but, que l'on suive son plan et non plus celui de Dieu. En tentant Jésus, Satan voulait qu'il oublie la raison de sa venue, qu'il oublie le plan du Père et pense à lui-même, à ses besoins présents et non pas au salut des humains. Plusieurs fois, le diable va faire des propositions qui, soi-disant, sont dans l'intérêt de Jésus. Des propositions qui combleront ses besoins actuels, qui sont selon la volonté du diable, mais non de Dieu. Chacune de ces propositions va commencer par « Si tu es le Fils de Dieu. » Si tu es le Fils de Dieu. Il a dit que tu étais son fils. Tu sais ce que « Fils de Dieu » signifie ? Que tu mérites quoi ? Plein de choses. Tu as des droits en tant que fils de Dieu. Tu as le droit déjà d'être bien nourri. Comment vous recevez le fils d'un roi ? Vous le laissez mourir de faim ? Non. Mais c'est ce que Satan est en train de dire. Il est en train de te laisser mourir de faim. Mange. Fais un miracle. Mange. Tu as des droits. Pense à toi d'abord. Le fils de Dieu ne peut pas être traité comme tu es traité actuellement. Première manière de faire du diable, faire douter de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il t'aime vraiment ? Est-ce que si Dieu t'aime, il te mettrait dans une telle situation ? C'est pas comme ça que les gens... Est-ce que Dieu vous mettrait dans des... Si vous aimez vraiment. Le tentateur voulait faire douter Jésus de ce qu'il avait dit, de ce que Dieu avait dit sur Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et l'arme du tentateur, c'est le doute. Et dès le début, il a commencé comme ça. Avec Adam et Ève, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Et là, c'est, Dieu t'aime-t-il vraiment ? Arme qu'il utilise aussi avec nous. Que nous doutions et que nous rejetions la parole de Dieu. Et au-delà de ça, il nous amène le doute, mais aussi, il déforme le plan de Dieu en utilisant la parole de Dieu. Si on regarde au chapitre 4, versets 5 et 6, il dit « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, toujours avec ce début de phrase, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Il est où là ? Sur le haut du temple. Je ne sais pas si vous savez, mais le temple, ce n'est pas un endroit désert. Il y a sûrement du monde en bas. Donc s'il saute et que les anges le rattrapent, qu'est-ce que vont dire les gens en bas ? Waouh ! Celui-là, c'est notre Messie. Faisons le roi. Maintenant qu'il soit le roi chez nous, on l'a reconnu. Parce qu'il a fait un miracle qui plaît aux gens. Magnifique, les anges le sauvent, les anges lui obéissent. Oh, mais est-ce que c'était ça la mission de Jésus ? Il est venu pour être le roi des Juifs ? Il est venu pour sauver les hommes. Et ce que fait Satan ici, c'est qu'il prend un verset et il le détourne pour oublier le véritable plan de Dieu. Et c'est ce qui arrive souvent. Ne pensez pas qu'il n'y a personne qui utilise la Bible pour nous sortir de la volonté de Dieu. Combien de sectes existent ? Et ça a été basé sur quoi ? Sur un verset biblique. Utilisé pour quoi ? Pour l'intérêt de qui ? Des personnes, ils n'ont plus de Dieu. Le tentateur nous éloigne de la mission que Dieu nous confie. La venue de Jésus-Christ n'était pas pour être roi des Juifs, mais pour sauver le monde de la perdition, sauver de la mort. Et pour remplir cette mission, notre Seigneur Jésus-Christ a dû faire beaucoup de choses. Il a dû mourir, crucifié, condamné à mort à notre place, et nous l'avons rappelé aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu cette condamnation qu'il avait subie, où serions-nous ? Encore dans nos péchés ? Il doit verser son sang. Nous avons pris cette coupe pour le rappeler, sang de l'alliance qui nous pardonne. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Donc, s'il était roi des Juifs et qu'il n'était pas mort à la croix, est-ce que nous aurions pu être pardonnés ? Non. Il doit ensuite vaincre la mort et ressusciter pour que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous puissions vivre une vie nouvelle. Si Christ n'est pas ressuscité, comment pourrions-nous vivre aujourd'hui une nouvelle vie? Et ça, c'est quelque chose qui n'arrange pas un ange, Satan. Satan fait obstacle à la mission de Jésus. Et on peut lire plus loin dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16, versets 21 à 23. Il ne va pas s'arrêter ici, dans le désert. Il va continuer. C'est Matthieu. Matthieu 16, 21. Toujours le même évangile, donc évangile selon Matthieu. Et là, Jésus est en train de faire connaître son ministère à ses disciples. C'était peut-être pas très clair, mais là il va bien éclaircir. Il dit, dès lors que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour, Pierre Léon, pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Est-ce qu'il dit, mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Pierre, il dit. » Il dit, « Arrière de moi, qui ?» Satan. Pourquoi? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quelle est la pensée de Satan? Stopper le sacrifice. Et il va encore dire quoi quand Jésus-Christ est à la croix? Il va répéter cette phrase, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Il va tout tenter pour que Jésus stoppe son ministère jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et vous connaissez la solution de Jésus, que Jésus nous donne pour ne pas tomber dans cette tentation, parce que la tentation est forte quand même. Nous, on dit ça, on pense que c'est facile, mais vous êtes sur une croix, vous souffrez. Et si vous aviez la possibilité de descendre, que feraient les trois quarts des gens? Ils descendraient. Et tu as faim, que feraient les trois quarts des gens? Ils mangeraient. Si tu as, on te donne un royaume, on dit, celui-là, ça sera ton royaume. Qu'est-ce que feraient les gens? Ah ben oui, je prends. Mais Jésus est différent. Il a toute l'approbation de Dieu. Et comment nous savons? Eh bien, quand Jésus est tenté, on peut aller, Matthieu chapitre 4, verset 4. Il va répondre une chose simple. Il y a des besoins dans le monde. Il y a des besoins dans le corps. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain simplement. C'est un besoin, on le sait. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment vivre? Par les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Comment sortir des tentations? En vivant la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et non seulement il l'annonce, mais il le met en pratique. Parce que qu'est-ce qu'il fait là? Il est écrit. Il rappelle quoi? La parole de Dieu. Et il va encore redire après, au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et c'est étonnant, parce que Jésus, nous le savons, c'est la parole. Il aurait pu dire, juste le dire comme ça. Mais il dit, il est écrit. Et je suis persuadé que c'est pour nous qu'il le dit. De dire, si vous voulez prendre une référence sur ce que Dieu dit, regardez, c'est écrit. N'essayez pas de vous forger en disant, je pense que Dieu... Non, il est écrit. Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il est écrit. C'est écrit. Si vous ne voulez pas tomber lors des tentations, demeurez dans la parole de Dieu. Ne vous en écartez pas. Mais pour cela, vous devez déjà la recevoir, la serrer dans votre cœur. Non pas la prendre par cœur, mais la serrer dans le cœur. Il ne s'agit pas de répéter un mantra, des paroles vaines. Dieu sauve, Dieu sauve, Dieu sauve, Dieu sauve, Dieu sauve. Non, ce n'est pas ça. Mais je vous lis juste ce proverbe qui dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie » et ils augmenteront ta paix. Proverbe 3, 1, 2. Ce sont des enseignements, des préceptes. Des préceptes, c'est fait pour faire quoi avec? Pour les suivre, les pratiquer. Un précepte n'a pas de valeur si vous ne le pratiquez pas. Et la parole de Dieu, elle est faite pour quoi? Être pratiquée. Et si vous la pratiquez, ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. De combien de jours Dieu a prolongé notre vie en Jésus-Christ ? L'éternité. En Jésus-Christ, il ne s'agit pas de 40 jours, il ne s'agit pas de 40 ans, il ne s'agit pas de 100 ans, 200 ans, 1000 ans, il s'agit d'une éternité. Vous savez, survivre 2-3 ans de plus n'a aucun intérêt. Mais si on vous dit, vous survivrez toute une éternité, c'est quelque chose que tout le monde devrait aspirer à chercher, une éternité avec Dieu. Car si c'est 3 ans et 4 ans de plus, mais vivre dans le malheur, ce n'est pas ça que nous cherchons. Voilà pourquoi on ne parle pas ici d'un évangile social, mais d'un évangile qui sauve les âmes. S'écarter de la parole de Dieu, suivre ses propres pensées, sa voix, c'est la chute assurée. Et vous savez, Satan en sait quelque chose. En effet, parmi les citations de ce qui est écrit, au verset 10, Jésus va dire une chose qui devrait rappeler à Satan de vieux souvenirs. De vieux souvenirs. Un point qui est commun entre deux groupes d'êtres spirituels que sont les hommes et les anges. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous savez que Satan a été serviteur de Dieu avant ? On va le lire quand même. Hein. Ézéchiel, chapitre 28, versets 15 à 17, il était serviteur de Dieu. Ah, les gens pensent que Satan, il est sorti et d'un seul coup, c'était, je ne sais pas, une chèvre avec des cornes et puis des pattes, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il est vraiment dit de lui ? Déjà, ça commence par cette phrase, on aurait pu commencer plus tôt, mais moi j'ai commencé à ce verset, qui est le verset 16, qui est le verset pendant 15. Il commence en parlant de lui, « Tu as été intègre dans tes voies. » Qui aurait pensé que Satan était intègre à un moment dans ses voies ? Et il dit quoi ? « Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Il lui a donné un nom qui est ici et qui n'est pas Satan. Son ancien nom, chérubin. Protecteur. Vous savez ce que c'est qu'un chérubin protecteur ? Parmi les anges, vous savez quelle place ils ont ? Si vous connaissez l'Arche de l'Alliance, vous voudrez savoir une chose. Là où Dieu apparaît, qu'est-ce qu'il y a sur les deux côtés, comme ça ? Des chérubins protecteurs. À quelle distance de Dieu ? À quelle distance ? Les chérubins protecteurs sont ? Au plus proche. Au plus proche. C'est pas comme si Satan disait « Oh, je sais pas trop ce que Dieu veut, je le connais pas trop. » C'était un des anges qui était au plus proche. Au plus proche. C'était un ange adorateur. Et il est devenu de serviteur à adversaire. Comme tous les anges, Satan a été créé dès le départ comme un esprit adhérent et servant Dieu à 100%. Il a été intègre dans ses voies. Il n'a pas dit qu'à un moment donné, il a péché et il est redevenu intègre. Il a toujours été intègre jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée. Donc il était 100% au service de Dieu, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, non-stop, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. De chérubin protecteur, il est devenu l'ange destructeur, l'adversaire, le tentateur. Pourquoi ? La réponse est juste donnée là. Ton cœur s'est élevé à cause, verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Qui est-ce que Satan voyait le plus devant son visage ? C'était censé être Dieu. Mais là, qui est-ce qu'il voit le plus devant lui ? Sa beauté. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Ça fait rire. Vous savez, on est un peu dans ce monde aujourd'hui. On est dans un monde où on se dit, est-ce que c'est moi le plus beau ? Est-ce que c'est moi la plus belle ? Est-ce que c'est moi qui ai les meilleurs trucs ? C'est la manière maintenant dont tout le monde vit. On se regarde beaucoup. J'avais toujours un commercial dans mon ancien travail. Nous, on vendait des produits qui étaient dédiés à la cosmétique. Et donc, des produits aussi qui servaient, vous savez, à tout ce qui est collagène, tout ce qui est, qu'on appelle ça, modification un petit peu des traits de la peau. Donc, refaire le nez, refaire les lèvres et tout ça. Et il avait dit, ce commercial, qui m'avait, quelque chose qui m'avait étonné, mais qui m'a dit quand même. Il m'a dit, vous savez, auparavant, les gens pensaient que ces produits-là, là, se refaire faire, c'était fait pour les personnes, c'était mal vu. C'était mal fait, mal vu. Personne ne voulait ça. Les gens qui se refaisaient le visage, refaisaient le nez, refaisaient le corps, c'était des gens... On disait, bon, c'était des gens riches qui n'avaient rien à faire, quoi. Mais aujourd'hui, même des jeunes le font. Et il a dit, vous savez pourquoi ? On ne s'est jamais autant regardé qu'aujourd'hui. On a des réseaux sociaux où qu'est-ce qu'on voit le plus ? Nous, nous et nous. Et à force de regarder, on se dit, ah, il faut que je change ça. Et Satan était comme ça, à force de se regarder, il parlait pour lui. Il ne voyait que lui. Et il voulait toute une vie autour de lui. Et servir qui ? Lui. À un tel point que sa sagesse a été corrompue par son éclat. Il était sage avant. Il était sage parce qu'il était à l'écoute de la parole de Dieu. Mais là, qu'est-ce qu'il écoutait ? Lui. Il regardait qui ? Lui. Les anges faits uniquement d'esprit sont entiers dans leurs décisions. Ils servent Dieu à 100%. Ils exécutent les ordres de Dieu à 100%. Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Et un ange, dès qu'il n'exécute plus les ordres de Dieu à 100%, il part de 100% à 0%. De serviteur à ennemi. Il n'y a pas de milieu. Nous, c'est le contraire. On part de 0. Et la cible, c'est 100%. On a quand même ça de différent avec les anges. On part de 0. C'est-à-dire qu'à la base, quand les anges nous ont regardés, ils ont dit, alors ceux-là, aucune possibilité qui monte là-haut. Incapable de servir, mort par nos péchés. Et c'est pour ça que Christ est venu nous sauver. Et quand il a vu Christ arriver, il a dit, oh là là, il va réussir à faire quelque chose où nous, on a échoué. Il va amener ses zéros à 100. Alors vous vous étonnez bien qu'il était un peu jaloux. Moi, j'ai tout perdu. Je vais chuter. Je pars dans l'abîme. J'emmènerai le maximum avec moi. C'est son rôle. Mais le rôle de Dieu, c'est de passer les hommes de mort à la vie, de 0 à 100. Afin que nous pratiquions ce qui a été ordonné. En Matthieu chapitre 4, 10, qu'on a lu tout à l'heure, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Il faut être honnête, hein. En tant qu'homme, on oublie parfois d'arrêter Dieu. On n'est pas à 100 aujourd'hui. Hein. On sera à 100 quand on sera en présence du Père. Mais il y a ce côté où on monte. Parce que le Seigneur nous renouvelle chaque jour. Et si nous sommes à l'écoute de sa parole, il va continuer à nous renouveler. Et nous l'adorons. Parce que nous adorons. C'est un fait. Et nous le disons même tous les jours. C'est entré dans le langage usuel. J'adore cette voiture. Ah, j'adore mes enfants. J'adore mes amis. J'adore cette chanson. J'adore, j'adore. Il y en a même une marque qui en a fait son slogan. Dior, j'adore. C'est rentré dans notre tête. Dior, oh ben j'adore. Mais dire Dieu, quoi ? On devrait dire Dieu, j'adore. Mais ce n'est pas dans le réflexe du monde. Autant une pub nous rentre facilement, Dior, j'adore, autant Dieu, je l'adore. Ben, il faut le répéter. Et c'est ce que fait Jésus. Tu adores à qui ? Le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Adorer ne devrait être lié qu'à Dieu seul. Car lorsque l'on tombe en adoration, on plie le genou, on se prosterne. L'autre mot pour adorer, c'est se prosterner. C'est très fort, hein ? C'est pas juste, oh j'adore. On se prosterne. On obéit à celui qui est adoré. C'est une attitude, ce n'est pas juste des mots. Et Satan veut détourner notre adoration. Il est le diable. Son rôle, c'est de séparer. Séparer notre adoration de Dieu. Car nous sommes des adorateurs. Il divise. Et il veut le prendre pour lui. Et il est prêt à tout offrir pour cela. C'est pour ça qu'il est prêt à offrir beaucoup à Jésus pour qu'il se détourne du Père. Tu le serviras lui seul. On a vu, hein, les anges, leur rôle, c'est de servir qui ? C'était ça, ils sont créés pour ça. C'est leur fonction. Ils sont, le terme « ange », c'est les messagers de Dieu. C'est-à-dire que quand ils vont parler, tout ce qu'ils disent, c'est sûr que ça vient de qui ? Normalement, de Dieu. Et ils ne corrompent en aucun point le message. Quand ils descendent, quand ils les envoient, c'est le message exact. 100% de ce que Dieu a dit, ils le retranscrivent. Ils ne font rien sans la parole de Dieu. Un serviteur exécute l'ordre d'un maître avec obéissance. Il ne pense qu'à faire sa volonté. Et c'est ce que dit même la parole. On peut lire Psaume 103, 20, 22. Psaume 103, versets 20 et 22. Psaume 103, versets 20 à 22, qui dit, et là il s'adresse aux anges d'abord, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, et là nous sommes dedans. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Vous voulez bénir l'Éternel ? Ah, le fait, c'est pas quelque chose, ça sort de la tête, on fait comme on veut. Hein. Comment vous servez un maître ? Vous faites ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il dit ici ? Vous exécutez ses ordres, obéissez à la voix de sa parole, faites sa volonté. Et c'est ce que Jésus fait. Il sert le Père. Il nous fait une démonstration de ce qu'était un adorateur et un serviteur. Satan veut qu'on le serve, que ce soit lui qui soit notre maître, qu'on maudisse Dieu. Il veut que Jésus ici rejette Dieu pour le rejoindre lui. Sa proposition est simple, ne souffre plus, je te propose une voie simple. Ma porte, elle est large, hein. Tu peux y rentrer. Hein. Et c'est quoi cette porte ? Règne sur le monde entier. Je t'offre tout ce royaume. C'est ce qu'il dit, versets 8 et 9 de Matthieu 4. Le diable il s'est transformé en taxi. Il n'arrête pas de ramener à gauche, à droite. Il a des choses à montrer. Et là, ce qu'il montre, c'est le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Je ne sais pas c'était quoi la montagne la plus élevée à l'époque. Mais en tout cas, c'était assez haut pour qu'il voit quoi ? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Demandez ça à n'importe quel homme. Il va faire quoi ? Il va se prosterner, il va adorer. Mais Jésus va donner sa réponse que nous avons lue tout à l'heure. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà la parole de ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Ce jour-là, dans ce passage, il s'agissait bien d'un événement important de l'histoire. Celui-ci est mon fils bien-aimé, et j'ai mis en lui toute mon affection. Le Père a prouvé, par cette tentation apportée par le diable, que son fils était bien ce fils bien-aimé, qui a toute son approbation. Le diable peut tenter tout ce qu'il veut, il ne se détournera pas de ma volonté. Et il est le seul homme comme cela. N'importe quel homme aurait cédé face à Satan. Vous savez, même Job, il n'a pas eu Satan en face. Hein. Satan était à distance. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais à distance. Mais là, c'est du face à face. La première personne qui a eu face à face, c'était Adam et Ève. Et ils sont tombés KO. Aucun homme ne peut résister à Satan. Il est beaucoup plus puissant qu'un homme. Mais comment ça se fait que celui-là est capable de résister ? Il est beaucoup plus haut qu'un simple homme. Et Satan vient de se rendre compte. Parce que comme il a écrit en dessous, il a dit « il est écrit », il se fait référence à la parole. Mais il va quand même prononcer un mot où il ne dit pas « il est écrit ». Il a juste, verset 10, hein, on reste, hein, Jésus lui dit, il dit quoi ? « Retire-toi, Satan ». Demandez à n'importe quel homme de dire à Satan « retire-toi ». Il ne se retirera pas. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Verset 11. Alors le diable le laissa. Le diable vient de se rendre compte, là j'ai perdu. Je ne pourrais pas aller plus loin. Avec celui-là, je ne pourrais pas aller plus loin.
ce Jésus de Nazareth est au-dessus des anges. Quand il parle, le diable se retire. Aucun homme ne peut faire ça. Hein. Ne croyez pas qu'un homme va dire « Retire-toi », je vous dis, c'est impossible. Et une chose encore est étonnante. Il vient de dire « Tu adoreras qui ?» C'est quoi le verset hein ?« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Il vient de donner une leçon à Satan. Mais qu'est-ce que viennent faire les anges? C'est le verset qui est là aussi. Hein. Mais il vient de dire « Tu adoreras qui d'abord seul ?» Tu serviras qui seul? Le Seigneur. Et là, les anges viennent adorer qui? Jésus. Le Seigneur, il parlait de Dieu le Père, et pourtant les anges viennent adorer qui? Vous venez de voir deux groupes d'anges. Il y a un groupe d'anges qui a reconnu que c'est Dieu qui vient de parler, et qui laisse, et s'en va. Et il y a un autre groupe d'anges qui vient de reconnaître que c'est Dieu qui vient de parler, et qu'est-ce qu'ils viennent faire? Adorer. Et ce message est là pour dire que les anges sont comme ça. Ils adorent ou ils n'adorent pas. Mais les hommes sont aussi de la même nature. Ils adorent ou ils n'adorent pas. Et soit vous laissez Jésus, soit vous servez Jésus. Il n'y a pas de demi-mesure en disant « Ah, ben parfois oui, parfois non. » Le diable le laissa et les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le diable le laissa, il s'en va. Et peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez un message en parlant de ce Jésus qui a été capable de souffrir toutes ces choses, toutes ces tentations pour vous, de mourir à la croix pour vous, de servir le Père pour votre salut. Mais là, vous avez donné une réponse. Soit vous dites, ok, mais je laisse, je m'en vais. Ou vous vous dites, je viens vers ce Jésus. Les anges vinrent auprès de Jésus. Et c'est l'appel de Dieu, c'est que nous venions auprès de Jésus-Christ. Nous qui sommes des hommes. Pourquoi? Parce qu'il a la vie, parce qu'il vient nous sauver, parce que c'est la mission qui lui a été confiée. Et il vient de prouver que ce Jésus, ce n'est pas juste un homme, c'est Dieu. Car qui aurait pu supporter ça si ce n'est Dieu? Qui les anges adoreraient si ce n'est Dieu? De qui le diable aurait-il peur si ce n'est Dieu? Alors ma question, est-ce que vous avez fait un choix déjà? Est-ce que vous avez laissé Jésus loin de vous? Où vous êtes venu à Jésus. Et si vous venez à Jésus, qu'est-ce que vous y faites? Il est dit que les gens faisaient quoi? Les anges faisaient quoi? Ils le servaient. Adorateur, serviteur, les deux ne sont pas écartés. C'est la même chose. Si vous l'adorez, vous le servez. Si vous le servez, vous devez l'adorer. Il ne dit pas soit l'un, soit l'autre. C'est les deux. Si vous êtes déjà venu à Christ, et que vous avez placé votre confiance en lui, c'est que Dieu le Père a approuvé votre choix, votre vie. Vous aurez sûrement des tentations aussi, parce que vous avez approuvé le plan de Dieu, parce que vous êtes venu à Dieu. Alors demeurez dans sa parole, car cette parole, c'est ce qui vous gardera de tomber, de chuter. Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'êtes pas encore venu à lui, j'aimerais qu'on prenne un passage en 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Qui annonce quand même qu'on a toujours un lien avec ces anges. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jour du jugement, on peut aller directement au verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Il y a toujours un choix et il y a toujours une conséquence. Le choix de prendre Jésus-Christ comme son sauveur, c'est une vie éternelle. Le choix de le laisser loin de vous, c'est le jugement des injustes. Réservé normalement aux anges, mais aussi à tous ceux qui suivent les anges déchus. Et je ne souhaite personne cela. Et le Seigneur, quand il fait ce message, c'est pour vous indiquer, Jésus a vaincu Satan pour vous sauver. Il aurait pu ne pas le faire, il aurait pu prendre tous ses royaumes. Il aurait pu rester là où il est, mais il vous a aimé. Et j'aimerais qu'on passe un moment dans la prière, qu'on soit tête baissée, à nous rappeler de ce que vit dans ce passage le Seigneur pour nous. à le remercier et surtout à remettre toujours notre vie à lui, afin que nous ne tombions pas, nous qui sommes à lui. Oh mon Dieu, nous voulons te remercier parce que tu as accepté de venir dans cet habit faible, cet habit d'homme, cet habit vulnérable, cet habit où tu as souffert la faim, tu as souffert les moqueries, tu as souffert même la séparation avec du Père pour nous. Tu as subi la mort pour nous. Et Seigneur, aucune personne ne nous a aimés comme cela. Aucun homme n'aime un autre homme à ce point. Mais toi, tu nous as aimés alors que nous étions encore des ennemis, nous étions sans force. Tu nous as aimés sans intérêt. C'est juste ta personne. Et nous voulons, Seigneur, aujourd'hui louer ta personne. Nous voulons, Seigneur, regarder à toi comme étant celui qui a cet amour infini. Cet amour qui ne se lasse pas d'aimer, malgré même les événements les plus compliqués, malgré même la tentation. Seigneur, merci encore parce que ce passage nous rappelle que Satan est un grand ange, mais au-dessus de Satan, il y a toi qui nous protège. Et quand bien même les dominations chercheraient à nous séparer de toi, qui me séparera de l'amour de Christ? Rien du tout. Et merci pour cette promesse. Merci pour cette assurance dans la vie que nous avons, à nous qui avons cru en ton nom. Et je veux ne pas partir sans laisser un message pour ceux qui n'auraient pas Christ dans leur vie. Vous dire que sans Christ, c'est le jugement. Sans Christ, il n'y a pas de solution. Sans la parole, on reste mort. Et c'est un message qui vous donne aujourd'hui, venez à Christ, venez. Et si vous voulez venir aujourd'hui, faites ce choix maintenant, n'attendez pas demain, demain il est déjà trop tard. Et si vous voulez faire ce choix, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez juste lever la main. Lever la main et dire, je veux te suivre Jésus-Christ. Je veux venir avec toi. Je ne veux pas me perdre. Merci d'avoir payé pour moi. Merci. C'est l'occasion. L'occasion qui ne surviendra peut-être pas demain, mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oh, Seigneur, je veux te prier. Pour ceux qui ont levé la main, timidement ou avec envie, peu importe. Mais Seigneur, délivre-les. Car c'est ce que tu as voulu faire en venant ici, nous délivrer. Et je sais que si tu l'as dit, tu le fais. Alors Seigneur, place cette assurance dans le cœur de ces personnes. Place une assurance éternelle. Prolonge les vies jusque dans l'éternité. Et si parmi nous, vous connaissez déjà le Seigneur, mais vous dites, j'ai cessé de t'adorer. J'ai cessé de te servir pendant peu de temps. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux revenir. Je veux obéir à cet ordre, car c'est pour cela que tu m'as créé, adorer et servir. On peut prier pour vous aussi. Levez juste cette main, on priera, car c'est la volonté de Dieu et nous voulons suivre la volonté de Dieu, de voir des adorateurs et des serviteurs pour Dieu seul. Et il vous donne cette possibilité. C'est ça la vie éternelle, c'est ça notre joie, notre paix. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ceux qui prennent la décision de revenir à toi, prennent la décision de t'adorer. Nous te remercions, Seigneur, car aussi timide que soit le cœur, toi, Seigneur, tu places ta parole à l'intérieur pour que nous puissions être brûlants. Des adorateurs, des serviteurs. Tu nous dis dans ta parole, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. Nous voulons nous soumettre entièrement à toi. Sois, Seigneur, dans nos vies, chaque jour, afin que nous puissions être agréables et que le diable fuit comme il a fui le jour où il t'a tenté. Gloire te soit rendue, mon Père, en ce jour encore. Sanctifie cette prière. Amen. Je vous invite à prendre un...